Peux allumer et activer ton micro. Je le fais.
Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez? Ça marche? Non.
Oui, on t'entend. Oui, on t'entend bien.
Bien.
Alors, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous voir et de vivre ce culte avec vous. Et nous sommes donc vraiment dans cette... Ouais, dans une joie que c'est difficile à expliquer, la joie, vous savez, c'est une joie vraiment profonde que nous vivons. Et cela, bien, nous réjouit, nous réunit, nous voit que le Saint-Esprit est vraiment, vraiment actif et qu'il, c'est lui qui nous unit, c'est ce lien-là bien plus fort que l'électronique et tout ce qu'on veut. C'est lui qui est présent au milieu de nous avec notre Seigneur. Alors merci beaucoup pour vos prières, pour votre soutien qui me permet d'avancer dans le ministère ici à Rochefort. Alors notre petite communauté a atteint un noyau d'une quinzaine maintenant, alors avec le déconfinement on va chercher un autre local parce que c'est trop petit. Et merci de vos prières de nous aider à trouver un local bien placé au centre-ville. Voilà, c'est vous êtes en partie avec nous, même si vous n'êtes jamais venu, et on vous invite à venir, à venir voir et à venir donc partager cette joie du Seigneur de bâtir une nouvelle église là-bas à Rochefort. Alors, le Seigneur m'a donné un texte ce matin, un peu en rapport avec l'actualité que nous vivons. Et je vous invite à lire dans Matthieu 24. Et du verset 34 à 44, si ça va s'afficher, ou je lis dans ma Bible. Non. Alors, je vais lire dans ma Bible, je vois. Donc, à partir du verset 34, « Je vous le dis en vérité, » c'est le Seigneur qui nous parle là, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Important, ces paroles. Et je vous invite aussi à bien lire tout le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu, qui nous éclaire sur le déroulement des événements de la fin des temps qui, semble-t-il, sont commencés et vont se mettre en route maintenant et déjà dans certaines parties du monde, il me semble, déjà plus avancé que chez nous. Mais attention, ce ne sera pas la fin de notre Terre. On va parler sur notre planète, parce que nous sommes faits de la poussière de la Terre. Mais après le retour de notre Seigneur, l'enlèvement de l'Église et les jugements qui vont suivre, il y aura une nouvelle terre avec de nouveaux cieux qui seront recréés par Dieu le Père, fort probablement selon le modèle qu'il y avait avant, justement avant, au tout début de la création du monde. Et cette terre accueillera l'Église et notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, pour l'éternité, pour vivre cette communion extraordinaire que nous attendons, que nous désirons et que nous avons vraiment besoin de vivre au fond de notre cœur. Mais avant ce retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, nous allons vivre dans un temps de tribulation décrit au chapitre 24 de Matthieu, que déjà beaucoup d'enfants de Dieu vivent sur la terre. Et inévitablement, cette tribulation bien nous atteindra, et certainement elle commence avec ce Covid-19. Et c'est pour traverser cette période-là que notre Seigneur Jésus nous lance un très sérieux appel à la vigilance. C'est ce que nous avons lu. Mais il nous dit aussi que nous ne savons pas quand ces événements se produiront, le retour, le grand événement du retour du Seigneur. Personne ne le sait, seul Dieu le Père le sait. Il connaît ce jour et il ne l'a communiqué à personne, ni aux anges, ni même à son Fils Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur nous donne deux points de repère qui doivent nous entraîner dans l'action pour être prêts quand le jour, le grand jour, n'est-ce pas, du retour de notre Seigneur arrivera. Tout d'abord, il nous dit qu'apparemment, rien ne laissera dans les événements courants de la vie présager son retour. Le monde vivra normalement dans son environnement, dans son contexte, et quand le Seigneur arrivera soudainement, d'une façon rapide, imprévue, en un instant, nous dit l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 4,16, la rapidité, comme un éclair, nous dit le Seigneur au verset 24 du chapitre 20, au verset 27 du chapitre 24. Donc, la soudaineté de la venue du Seigneur est la caractéristique de cette action divine. Elle est imprévisible, mais elle arrivera à son heure. Alors le Seigneur nous dit, pour nous préparer à ce grand événement, prenez exemple sur Noé, qui a vécu quelque chose de semblable avec le déluge, et c'est quelque chose dans ce genre-là que vous allez vivre. L'autre recommandation que le Seigneur nous donne, c'est de veiller. Alors, veiller, c'est rester volontairement réveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Ce qui veut dire que pour aborder cette période unique de l'histoire du monde et de l'Église, nous devons rester en éveil, être vigilants et nous préparer en travaillant aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ce qui veut dire que nous ne devons pas nous assoupir, que nous ne devons pas nous reposer sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur notre bien-être, sur notre travail, sur notre suffisance. Vous voyez, nous sommes tout d'abord, en premier, des témoins de la grâce de notre Dieu. Nous sommes comme des soldats du Seigneur dans ce monde qui va devenir de plus en plus difficile. Et nous devons être de garde, comme tous les soldats sont de garde quand ils sont en service armé. Et être de garde, je l'ai été à peu près pendant 250 nuits pendant mon service militaire en Algérie. C'était dans un endroit pas très facile, donc il fallait veiller. Alors, qu'est-ce que j'ai appris dans cette veille? Des choses intéressantes. N'est-ce pas? Il faut connaître le territoire qu'on a surveillé de nuit comme de jour. Il faut que le comportement et nos réflexes développent des moyens d'observation qui nous permettent d'apprécier dans la nuit les événements qui peuvent survenir pour être prêts à toute éventualité. Vous savez bien que le sommeil, c'est la mort de la sentinelle hein, et de ses camarades. Les nuits de pleine lune, c'est facile. Hein. On a de la clarté et on voit. Mais les nuits noires, les nuits sans lune, c'est avec ses oreilles que l'on va monter la garde. Et pour cela, il faut connaître tous les bruits habituels et savoir ce qu'ils veulent dire et ce qui va nous permettre de détecter les bruits inhabituels, n'est-ce pas, qui peuvent se révéler dangereux. Et je pense que c'est de cette veille-là que le Seigneur veut nous parler. Cette veille qui permet de voir dans l'invisible, qui nous permet de développer les capacités spirituelles et les sensibilités spirituelles capables de reconnaître le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, quel que soit le temps que nous vivons, quelles que soient les circonstances que nous vivons, de façon à ne pas le perdre de vue, de façon à avoir toujours les yeux, le cœur fixés dessus. Alors, quand l'obscurité va s'étaler sur le monde, et on sait que ce sera une obscurité de plus en plus sombre et épaisse, eh bien, nous aurons besoin pour nous guider de ne jamais perdre de vue la lumière de notre Seigneur pour nous guider. Alors, c'est pour cela que veiller comme un soldat de garde, c'est très important pour nous. Mais revenons à Noé. Noé veut dire repos, tranquillité. Nous apprenons que en Genèse, chapitre 6, verset 9, quelques traits de la personnalité de Noé, il nous est dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait donc, c'est un homme qui marchait avec Dieu tranquillement. Ce qui le mettait en violent contraste avec sa génération impie et corrompue, qui était devenue absolument insupportable pour Dieu le Père. Noé est appelé aussi par Pierre, l'apôtre Pierre, prédicateur de la justice. Donc Noé prêchait à ses contemporains pendant le temps de la patience de Dieu. Il prêchait de trois manières. La première, par sa vie, tranquillement, un homme qui était, vous voyez, calme. Et on peut penser que ce verset de l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15, peuvent s'appliquer à Noé. Ces versets nous disent « Faites tout sans murmure ni discussion. » Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Là est décrit la façon de vivre de Noé, sa façon de travailler, sa façon de conduire sa famille, ses relations avec son épouse, avec ses enfants, avec son voisinage, avec ses collègues, la gestion de ses biens, de ses finances, de son temps. N'est-ce pas? Tout était pour Noé dans le seul but de glorifier Dieu et de lui obéir. Alors, ce qui fait que Noé vivait vraiment en contraste avec les hommes et la génération de son temps. Et c'était sa première façon de prêcher la vie, la vraie vie, la vie qui vient de Dieu. Son deuxième moyen de prédication, c'est que Noé avait été averti de ce que Dieu allait faire, que Dieu allait submerger la terre pour effacer cette génération impie. Eh bien, Noé devait l'annoncer. Il ne pouvait pas faire autrement que d'annoncer à ceux qui étaient autour de lui ce jugement imminent de Dieu, ce jugement qui les guettait. Il n'a pas pu rester muet. Il a parlé, il a prêché pendant la construction de l'arche, il ne pouvait pas faire autrement. Il a répondu certainement aux nombreuses questions qu'on lui posait, car sa façon de vivre, ses activités devaient chez ses contemporains susciter de l'étonnement et bien des questions. Et évidemment, Noé y a répondu. Et il a prêché à ce moment-là. Et puis sa troisième façon de Noé de prêcher, eh bien, c'était la construction de l'arche. Et on va lire en Hébreux 11, 7, donc dans la grande galerie de portraits des hommes de foi, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux et Dieu nous dit de Noé. Non, de Noé. Et il nous est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est un verset important. Noé était saisi d'une crainte respectueuse de la parole que Dieu lui avait révélée. Il croyait à la sainteté outragée de Dieu par ses contemporains. Il partageait ce courroux que Dieu avait contre cette génération. Il croyait au jugement qui allait tomber. Et c'est pour cela qu'il s'est lancé dans la construction de ce grand chantier de construire l'arche. Noé avait pris au sérieux, la parole de Dieu. Il avait compris que le seul moyen pour lui et les siens d'échapper à ce désastre, c'était de construire l'arche. Il n'y avait pas d'autre moyen, un bateau d'un type tout à fait particulier, capable de résister aux flots du jugement de Dieu. L'arche était grande et beaucoup de personnes pouvaient y entrer avec les animaux. Et c'est ainsi que, par sa foi, Noé va manifester, en construisant l'arche, eh bien qu'il condamne le monde, donnant ainsi la démonstration que les impies périssaient non pas uniquement par l'eau du déluge, mais aussi et surtout par leur indifférence, leur incrédulité et leur méchanceté. Alors pourquoi, ça va, alors pourquoi le Seigneur lui donne l'exemple de Noé à ceux qui vont vivre les temps de la fin, à notre génération? C'est une question qu'il faut se poser, parce qu'il me semble qu'il y a similitude de situation entre le temps de Noé et le nôtre. Au temps de Noé, le monde d'alors a été condamné à cause de sa révolte contre Dieu, de sa violence contre les hommes, de son impiété. Il a été condamné par Dieu à périr par l'eau du déluge. Aujourd'hui, l'autre monde est condamné pour les mêmes raisons, pour son orgueil démesuré, pour sa méchanceté, son injustice, son impiété, sa moquerie des lois de Dieu. N'est-ce pas? Notre monde est jugé, il est déjà jugé, et il est condamné par Dieu à périr par le feu. L'apôtre Pierre nous le dit en 2 Pierre 3, versets 5 à 7. Il dit en effet, « Ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Et un peu plus loin, en verset 10, l'apôtre Pierre ajoute « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Terrible jugement. Terrible. Alors, qu'est-ce qui pourra résister et passer à travers le feu du jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre? Ben, c'est l'Église. Il n'y a que l'Église, la bien-aimée du Seigneur, que le Seigneur prendra à son retour. Et l'Église va, comme l'arche de Noé qui a pu traverser le déluge et finalement aborder une terre nouvelle, eh bien l'Église, elle est comme une arche spirituelle, elle va traverser en Christ, c'est en Christ qu'elle va traverser le feu du jugement et aborder les rivages célestes du royaume de Dieu. Alors, nous sommes appelés à bâtir l'Église comme Noé était appelé à bâtir l'arche. Et c'est là notre privilège. Au verset 40 et 41 du texte que nous avons lu de Matthieu, ces versets nous indiquent que le Seigneur va revenir alors que le monde et chaque personne sera normalement à son activité, à sa vie, à son train-train quotidien, et d'un coup les enfants de Dieu seront enlevés. L'un sera au champ et sera enlevé, et l'autre laissé. Idem pour les femmes, à la meule, l'une sera enlevée et l'autre laissée. Ce qui nous montre que l'Église fidèle sera comme enlevée comme in extremis avant les grands jugements qui s'abattront sur la terre. C'est rassurant d'un côté, mais soyons fidèles et persévérants en attendant notre Seigneur. C'est pour cela que nous sommes invités par notre Seigneur à construire l'Église comme Noé a construit l'arche. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Et voilà où doit se mettre en route notre action, c'est de construire l'Église. Et c'est une entreprise difficile. Quand Dieu a donné à Noé ses instructions pour construire l'arche, elles étaient brèves et concises. Alors on va les lire. Ça tient en trois versets. Au verset de Genèse, au chapitre 6 de Genèse, et les versets 14, 15, 16. Et nous lisons la parole de Dieu qui lui dit « Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. » Et voilà. C'est le strict essentiel que le Seigneur donne à Noé. Il n'y a pas de place pour les détails. Et dans la construction d'un bateau, des détails, je peux vous dire qu'il y en a. J'ai pu observer ici à Rochefort la construction d'une frégate du XVIIIe siècle. Ça a pris 11 ans à une équipe de charpentiers chevronnés pour construire le bateau. Imaginez Noé construire un bateau trois fois plus grand et qu'il n'était pas architecte naval ni charpentier naval, très certainement Noé. Imaginez. Alors c'est pareil pour nous, construire l'Église. Dieu nous donne peu d'instructions. Il nous donne les principes généraux, deux modèles, il nous donne l'Église de Jérusalem et celle d'Antioche. Peu de choses sur les détails. Cependant, la construction de l'Église fourmille de détails. Quand Noé, vous voyez, s'est vu confier par Dieu la construction d'un bateau insubmersible, parce qu'il devait flotter, mais en même temps, l'eau a tombé pendant 6 mois dessus. Et il devait flotter. 150 mètres de long. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. 25 mètres de largeur, 15 mètres de haut, 3 ponts intérieurs, un toit amovible, une porte étanche, des boxes pour des centaines d'animaux, des cales pour des réserves de fourrage et de nourriture, et une cabine pour lui et sa famille, pour ils sont 6-8 personnes à vivre dans cette cabine. Cela a dû poser beaucoup de problèmes à Noé. Cependant, il a construit l'arche comme Dieu le voulait. Au Genèse 7, verset 5, on voit Dieu qui fait l'inspection. Et il dit, Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Alors, comment Noé a pu faire pour surmonter toutes les difficultés pratiques et techniques de la construction, comme la forme de la coque? Vous savez, il y a nombre de bateaux dans l'histoire qui se sont retournés après avoir fait quelques 300 ou 400 mètres. Ils se sont retournés, puis c'était fini. L'assemblage des pièces de bois. Construire la charpente interne qui devait résister à l'assaut des eaux et des courants formidables qu'il y a eu. Ce n'était pas une mer calme, le déluge. C'était une mer tempétueuse avec des courants qui allaient dans tous les sens. Et l'étanchéité de la coque. Et n'oubliez pas que Noé avait un outillage des plus rudimentaires. Alors, on peut penser qu'à chaque question et problème technique, Noé s'est tourné vers Dieu. Car il n'a pas pu faire de maquette, il n'a pas pu faire non plus d'essai hydraulique, il a peut-être impossible pour lui. Et il a posé la question à Dieu, comment on fait maintenant? Comment on va s'y prendre? Puis il a attendu dans la foi la solution à son problème technique. Et Dieu lui a donné la réponse juste. Et il a dû ensuite l'appliquer avec précision. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'arche devait flotter du premier coup et en pleine charge. Ça aussi, c'était une épreuve phénoménale. Alors j'ai l'impression que c'est comme ça que Noé a construit l'arche par la foi. Avec une crainte respectueuse de la parole de Dieu. Ça a été son guide, cette crainte respectueuse de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, pour nous, pour construire l'Église, on a le modèle de l'Église de Jérusalem et de celle d'Antioche. On a un plan général qui nous est donné dans les Épîtres, dans le livre des Actes. Mais construire l'Église de Jésus-Christ, c'est une œuvre grandiose, c'est un objectif qui nous dépasse. Et c'est à cette œuvre que le Seigneur nous appelle. À chaque pas, à chaque étape de la construction, il y a toujours des problèmes nouveaux qui se posent. Même si on a l'expérience, et j'ai quand même une petite expérience dans ce domaine, pour avoir aidé à la naissance de plusieurs églises et d'avoir participé à la naissance de plusieurs églises, je peux vous dire, c'est jamais pareil. On ne peut pas prendre un modèle pour l'appliquer, c'est impossible. C'est toujours nouveau. Chaque question est nouvelle. Il n'y a rien de répétitif. La vie est faite comme cela. Dieu a créé la vie de façon qu'elle se renouvelle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est jamais pareil. Alors chaque problème est nouveau et il requiert à chaque fois une solution nouvelle. C'est en nous tournant vers Dieu avec foi, avec nos problèmes, comme Noé l'a fait, que nous recevrons les réponses de notre Dieu. N'est-ce pas ? N'oublions pas que l'Église, c'est une construction spirituelle, éternelle, et qu'elle est destinée au monde nouveau, au monde qui est à venir, et pas du tout à pérenniser dans le monde dans lequel nous vivons. Et cette Église ne va pas s'édifier autrement que par la foi, parce qu'elle est une œuvre de foi collective de tous les membres de l'Église. Chacun y est participant. On va lire, si vous voulez, maintenant, revenir à Matthieu. Oui, on va revenir à Matthieu et on va lire la fin du passage de Matthieu 24. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites, car c'est là qu'il verra les pleurs et des grincements de dents. C'est la conclusion du message de notre Seigneur sur la fin des temps. Et cette conclusion attire notre attention sur la façon dont les serviteurs du Seigneur vont s'acquitter de l'œuvre que le Seigneur leur confie. C'est l'histoire du bon et du mauvais serviteur. Le bon va donner la nourriture au temps convenable à ceux sur lesquels le Seigneur l'a établi. Il va, malgré les circonstances, les difficultés, les aléas de la vie, il va travailler fidèlement à l'œuvre que le Seigneur lui a donnée, il va travailler son don, il va consacrer ses forces à construire l'Église. Il va multiplier, parce qu'aujourd'hui c'est le grand besoin dans notre pays de multiplier les églises, de couvrir le pays d'églises pour être témoin de la grâce, de l'amour de Dieu et du jugement qui est à venir. L'autre, le mauvais, va s'intéresser au monde plus qu'à l'œuvre du Seigneur. Il va mélanger les deux. Et puis, il va finir par participer aux œuvres du monde et à les introduire dans l'Église et à délaisser ainsi l'appel et le travail que le Seigneur lui a confié. Puis le maître vient à l'improviste et il voit la situation et va juger ses serviteurs sur leur action. C'est sur ce qu'on a fait qu'on va être jugé. Le bon qui a travaillé à construire l'Église, va recevoir comme récompense le service sur tout ce que le maître possède. Le mauvais est démoli et il partage le sort des hypocrites, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ce texte est placé par notre Seigneur à cet endroit de l'Évangile pour nous rappeler que nous avons à veiller sur ce que nous faisons, et pas des serviteurs, mais tous. Nous avons à veiller sur ce que nous faisons et comment nous le faisons et comment nous vivons. Nous avons à travailler d'abord à construire l'Église du Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, parce que c'est la seule œuvre qui va traverser le feu du jugement et qu'on retrouvera de l'autre côté dans le royaume de Dieu. Le grand combat de l'Église dans les temps que nous vivons n'est pas de trouver de nouvelles formules. C'est vrai, il en faut. Mais nous saurons les trouver avec l'aide du Seigneur, selon sa volonté, si nous marchons par la foi. Le combat de l'Église, le grand combat de l'Église, et de chaque chrétien, va être dans les temps difficiles qui vont venir, dans ces ténèbres qui vont aller en s'épaississant et qui vont nous assaillir, qui vont vouloir nous étouffer, ça va être de garder la foi. Une foi vivante, dynamique, qui ne se laisse pas impressionner par les difficultés ou par l'avis de sybarites et d'hédonistes que le monde, notre société nous propose. C'est ce que le Seigneur nous dit en Luc 18:8. Quand il pense à ce moment que nous vivons, il dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Grave question que le Seigneur se pose. Une question qui s'adresse à nous et à chacun de nous. Et c'est sur ce terrain-là que nous avons à mener notre plus grand combat. Un combat que Christ a gagné à la croix, où il va nous donner sa totale victoire. Un combat que nous mènerons en bâtissant et en multipliant son Église, en étant au travail comme Noé était au travail. Il n'a pas dû lever beaucoup la tête pendant le temps de la construction de l'arche qui a duré très longtemps. C'est par la foi, que nous construirons l'Église. Et c'est cette construction-là, ce travail-là que nous ferons, qui va nous garder vigilants. C'est parce que nous travaillerons que nous serons vigilants et que nous ferons attention et que nous ne nous laisserons pas tromper par le monde autour de nous. C'est l'exaltation, c'est l'exhortation que l'apôtre Jean nous adresse en 1 Jean 5, versets 3 à 5. Il nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et moi j'ajoute, celui qui garde une relation intime avec son Seigneur, c'est celui-là qui triomphera du monde et des temps de la fin. Alors que ce soit employé à et consacré à cette œuvre éternelle, hein, c'est une œuvre éternelle de bâtir l'Église. Que notre Seigneur nous trouve les outils à la main quand il reviendra, le cœur au travail de son travail à lui, qu'il nous trouve là quand il reviendra, en vivant comme Noé, dans la crainte respectueuse de la parole de notre Dieu. Amen.
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 Merci, Gilbert, pour cette parole que le Seigneur t'a mis à cœur de nous partager. Quand il n'y a que l'Église par la foi que nous construirons l'Église, et quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai un problème. Voilà, c'est bon. Alors, je vous propose que l'on